France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la marche des sciences, émission consacrée aujourd'hui à l'histoire et à la science du renseignement.
Il y a une faille, bien évidemment. Quand il y a 17 morts, c'est que il y a eu des failles. Donc nous devons réagir, parce qu'il serait absurde de ne pas réagir. Le président de la République me l'a demandé. Et de l'autre côté, il ne faut pas le faire dans la précipitation. Le ministre de l'Intérieur, à la demande de François Hollande, va réunir les responsables des différentes formations politiques qui suivent ces questions pour aller encore plus loin, si c'est nécessaire, dans le respect de l'État de droit, mais avec une volonté implacable, une très grande fermeté, parce que nous devons à chaque fois renforcer nos moyens. Mais comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, j'ai toujours dit que nous faisions face à un défi majeur.
C'était le 21 janvier 2015, après les attentats survenus entre les 7 et 9 janvier, qui ont d'abord visé la rédaction de Charlie Hebdo, puis une policière municipale de Montrouge et enfin l'hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris. Bilan, 17 morts. En ce temps de menaces terroristes, l'espionnage, les services de renseignement, la cyberpolice ont trouvé un regain d'intérêt dans l'opinion publique et affichent une image positive, loin des méfiances provenant des tréfonds de l'histoire et longtemps véhiculées dans la société française. Activité ancienne dont on retrouve des traces dans l'époque antique, l'espionnage ne fut défini et organisé qu'à partir du 19e siècle. Après des épisodes houleux à l'image de l'affaire Dreyfus, deux guerres mondiales et une guerre froide ont rendu populaire la figure de l'espion, tant dans la littérature qu'au cinéma, comme en témoigne le succès intergénérationnel des James Bond. Mais paradoxalement, contre toute attente, à l'heure des révolutions technologiques et du big data, les activités de renseignement restent allouées aux hommes plus qu'aux machines. En partenariat avec Science et Vie et à l'occasion de la sortie des derniers cahiers de Science et Vie intitulés « L'espionnage, 4000 ans de manipulation », retour en direct sur France Culture sur cette histoire riche de la science du renseignement, de l'espion au big data, avec Gérald Arbois, historien, spécialiste des relations internationales contemporaines, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, et il est l'auteur de plusieurs livres, notamment « Des services secrets pour la France », un livre paru aux éditions du CNRS, et puis l'ouvrage « Au cœur des services secrets » édité au Cavalier Bleu, une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et à Caroline Chausset de la documentation sonore de Radio France. Et puis en seconde partie d'émission vers 16h45, place à la prestigieuse Académie des sciences pour vous parler d'un colloque ouvert au public sur 100 ans de révolution quantique. Un colloque qui aura lieu le 24 mai prochain, un événement à ne pas rater. Et c'est l'académicien et physicien Sébastien Balibar, co-organisateur du colloque avec Serge Haroche, qui viendra nous en dévoiler le programme tout à l'heure. Mais tout de suite, de l'espion au big data, la science du renseignement.
Le magazine américain Time vient justement, et cela tombe bien, de publier un hit parade des services secrets. Alors en tête, cela va de soi, ex aequo, la CIA et le KGB. En troisième position, il faut le noter, les services secrets israéliens. Quant au SDEC, les services français, eh bien, ils sont très loin. Nous ne sommes apparemment pas très doués en espionnage. Et là, le Time Magazine avance une explication. Nos services secrets seraient noyautés par les services soviétiques.
C'est évidemment une accusation très grave. Au ministère de la Défense, on répond placidement qu'elle n'est pas nouvelle. En revanche, à la piscine, c'est ainsi que l'on appelle le SDEC, eh bien là, on garde un silence obstiné. Il faut dire que là-bas, le silence, c'est une doctrine. Vous pouvez traiter le SDEC de tous les noms, accuser son chef de tous les vices. Seul le silence vous répondra.
Bonjour Gérald Arbois.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait des archives sonores de l'INA, extrait de l'interactualité du 31 janvier 1978, et donc on se moquait un petit peu du classement avec la France, mauvais élève apparemment du renseignement. Alors je rappelle que vous êtes spécialiste et histoire du renseignement et donc de l'espionnage, même si vous allez nous dire qu'on ne devrait pas dire espionnage, on va en parler. Il y a cette image récurrente des services secrets et du silence.
Ah, mais de toute manière, on est dans le monde du silence, on est dans le monde de l'ombre, parce qu'on est dans une partie grise de la vie publique et de la vie des relations entre États. Donc forcément, les services n'ont pas pour vocation de parler au grand public, ce ne sont pas des journalistes, ils ont pour vocation de parler à un donneur d'ordre bien précis, le chef de l'État ou le chef des armées, si on est dans du renseignement militaire. Et hors de ces chefs-là, ils n'en parlent pas. On a défini dans le monde du renseignement un besoin d'en connaître qui limite en fait l'accès au renseignement de ceux qui n'ont pas le besoin d'en connaître. Pour n'importe quel dossier, même le plus infime et le moins classifié, on peut avoir le niveau d'habilitation pour consulter le dossier, mais si on n'a pas le besoin d'en connaître, on ne le consultera pas.
Alors, une activité très ancienne, hein, telle que nous pouvons d'ailleurs la découvrir dans ces cahiers de Science et Vie. L'espionnage a été théorisé, on l'apprend donc en Chine, en Asie, en Inde, alors déjà au 6e siècle avant notre ère, avec notamment le livre « L'art de la guerre » hein, de Sun Tzu, ce général chinois. Donc l'espionnage existe depuis toujours. On en parle aussi dans les républiques italiennes du XIIIe siècle. Il y a l'espionnage industriel du XIXe siècle, organisé par les chambres de commerce. En tout cas, on se rend compte que cette activité est très ancienne, de la cour à l'État. En même temps, les services de renseignement ont évolué et ont bénéficié d'un cadre légal. Alors, il faut arriver à la période vraiment du XIXe siècle pour qu'on on donne ce cadre légal aux services de renseignement.
En fait, il faut prendre le renseignement comme de l'information spécialisée. Les États, en se développant, vont développer des systèmes d'information. On va comptabiliser la population, on va créer une diplomatie pour pouvoir aller voir plus loin et avoir des relations normales avec les voisins et ramener de l'information. D'ailleurs, les diplomates sont les premiers espions. Mais les espions officiels.
Les diplomates, les attachés militaires aussi.
Les attachés militaires, eux, apparaissent seulement au XIXe siècle parce que, justement, à cette époque-là, on a une évolution dans la technique militaire et on estime que des civils, diplomates, issus des meilleures familles des États, ne sont pas faits pour comprendre la trivialité de l'art militaire et des capacités militaires. Donc les Prussiens vont commencer dès 1830, les Français vont suivre dans les années 1850, et puis ensuite le mouvement est lancé. Tous les États européens qui comptent, la Grande-Bretagne, l'Empire austro-hongrois, l'Italie, la Russie, vont développer le même système d'attachés militaires, avec naturellement, plus on aura besoin d'une information spécialisée, notamment face à un ennemi prochain, la France vis-à-vis de l'Allemagne, la Russie vis-à-vis de l'Allemagne, l'Angleterre vis-à-vis de l'Allemagne, on va développer des structures parallèles, soit au niveau d'attaché militaire, donc ce sera l'attaché militaire adjoint qui s'occupera de recruter des agents et qui sera l'officier traitant de ces espions. Parce que là, pour le coup, ils le sont. Parce que s'ils se font attraper par la police locale, ils tombent sous le coup de la loi locale et ils tombent pour espionnage.
Oui.
Alors que l'officier traitant, lui, n'est pas un espion, c'est un agent de renseignement, puisqu'il est couvert par l'immunité, qui n'est pas encore l'immunité diplomatique, il faut attendre.
Oui, il est couvert par sa fonction, finalement, et par...
Et par les usages de réciprocité entre États.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a une culture du renseignement, ou alors, pour reprendre justement le thème de cette archive qu'on a entendue à l'instant et qui date de 78, on n'était pas très bon élève parce que on n'était pas forcément dans l'espionnage, mais plutôt dans la défense finalement. On n'était pas dans l'action et dans la volonté de vraiment mener ces mouvements de renseignement, ces services de renseignement.
On a eu une culture du renseignement. Quand vous voyez Le Secret du Roi, qu'on monte une structure, mais on est dans le niveau diplomatique, on n'est pas dans du service secret, on est simplement dans une spécialisation de l'information, c'est-à-dire qu'on veut conquérir le trône de Pologne, on crée un service secret. C'est un usage dans la diplomatie, comme d'utiliser des agents secrets. Donc cette culture, on l'avait. On l'a perdu au moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que le grand déballage sur la place publique, la politisation de la question avec les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards, on a éloigné des générations de bons officiers de la direction des services de renseignement. Déjà qu'on évoluait moins vite dans les grades quand on était à la section de renseignement. Mais là, c'était clair que c'était un mouroir.
Oui, donc, parce que finalement, on peut dire que l'affaire Dreyfus, Gérald Darbois, est à l'origine de l'image détestable du renseignement en France.
Non, l'image détestable, elle a toujours eu lieu. C'est Balzac qui parle de cet horrible mot pour l'espion. On n'aime pas, mais ça c'est tout un chacun, n'aime pas les gens qui regardent par les trous des serrures, sous les tapis. Donc on a ce... Mais là on est vraiment sur une partie qu'on appelle vulgairement l'espionnage. Mais tout le travail ensuite de traitement de l'information, de recoupement de l'information qui se faisait déjà à l'époque, de constitution, parce que c'était ce qu'on recherchait à l'époque avec les services de renseignement, l'état de l'armée qu'on va avoir en face.
Oui, et dans l'idée de l'ordre de bataille, préserver la défense d'un pays aussi. Voilà, avec cette notion-là, là, ça a une image positive,
non,
c'est ça ?
Non, c'était de se parer d'une attaque. Il faut bien voir que la France se crée un service de renseignement au moment où elle perd l'Alsace et la Moselle. Donc, ce service de renseignement va préparer la prochaine offensive française pour récupérer les provinces perdues. Alors, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que les Allemands vont faire la même chose. Ça va prendre du temps parce qu'on va avoir l'affaire Dreyfus. Mais on va y arriver à la guerre.
Alors, en tout cas, ces agents, hommes ou femmes, il faut les recruter. On se rend compte que là aussi, il y a une évolution dans le recrutement au fil du temps, selon diverses méthodes. Je vous propose d'écouter un deuxième document, extrait des archives sonores de l'INA. C'est le recrutement de Kim Philby, cet agent double britannique, né en 1912, mort en 1988, qui était devenu agent soviétique. Et donc, son histoire est racontée sur France Inter le 31 janvier 1978 par le colonel Gardère, ancien responsable du SDEC.
Vous avez un cas classique, ça se passait bien avant la guerre de 14, mais c'est le cas d'un officier d'état-major autrichien qui vivait au-dessus de ses moyens et qui un beau jour a commencé à recevoir régulièrement des chèques. Et il n'arrivait pas à comprendre d'où ces chèques venaient, il les encaissait lorsqu'il reçut la visite d'un monsieur très bien qui lui dit « Mais je suis l'attaché militaire russe. C'est moi qui vous ai payé depuis tant de temps. Et il vous sera peut-être difficile de dire que vous avez reçu pour rien de l'argent d'un officier russe. Alors, voyez-vous, nous avons besoin d'un renseignement assez rapide. Nous savons que vous avez accès au plan de mobilisation de l'armée autrichienne, austro-hongroise. Si vous pouvez l'amener, j'en ai pour une demi-heure à le photographier, personne ne le saura et nous quitterons bons amis. » Donc, il avait étudié le cas de l'officier autrichien, il savait qu'il avait de gros besoins d'argent, il l'a attrapé comme ça.
Il s'est suicidé.
Alors, donc cette façon de recruter Gérald Darbois, les hommes, les femmes, alors il faut faire la distinction entre le recrutement des agents pour le renseignement et le recrutement de ceux qui vont être chargés des affaires d'espionnage.
Ben, disons que les officiers de renseignement, donc ceux qui travaillent pour le service, dans le service, qui sont des fonctionnaires, même si le mot n'existe pas à l'époque, mais qui sont les fonctionnaires de ce service et qui sont les fonctionnaires de l'État, eux sont recrutés. Alors, il y a différents moyens, mais la base du recrutement, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens de confiance. C'est pour ça que pendant longtemps, on a recruté des frères, des cousins, des fils, parce qu'on connaissait, il y avait au moins quelqu'un du service qui connaissait cette personne et qui pouvait se porter garant de l'honnêteté, de la probité de cette personne.
Donc le réseau de filiation qui rassure tout le monde.
Voilà. Et aujourd'hui, même s'il y a des concours, on sait très bien que derrière, on regarde la personnalité des candidats et puis on a ceux qu'on va retenir et ceux qu'on ne va pas retenir. Même s'ils sont très bons, on ne les retiendra pas parce qu'il y a quelque chose qui peut porter préjudice. Ça peut être parce qu'il est homosexuel, c'est pas uniquement. Ça peut être parce qu'il est toxicomane, pas uniquement. Mais il y a quelque chose qui dérange et qui va permettre, en fait, à la partie adverse, d'utiliser cette faille pour pénétrer le service. Donc on ne va pas prendre quelqu'un qui va avoir une faiblesse ou une fêlure interne. Mais ça, c'est pour les fonctionnaires.
Oui.
Pour les agents ceux qu'on va appeler les espions.
Ceux pour lesquels on va forger des légendes ?
Non, on forge des légendes pour ceux qui sont...
Sur le renseignement ?
Pour les agents de renseignement.
Oui, mais pour les espions aussi, parce que...
Les espions, en règle générale...
Ils ont une fausse identité, une fausse histoire.
Pas forcément. On les utilise parce qu'ils ont une position...
clé, stratégique.
Qui est stratégique et qui permet d'offrir l'information que le service de renseignement va chercher. Après, on a ceux à qui on va faire des légendes. C'est ceux qu'on va envoyer, mais ce sont des agents, des officiers de renseignement qu'on va envoyer en mission pour soit recruter une source, soit pénétrer un système adverse. Alors, pénétrer un système adverse, ça veut dire faire comme Kim Philby. On élève un futur agent qui, lui, va pénétrer donc le service de renseignement adverse en ayant toujours sa fidélité pour le service qu'il l'a élevé.
L'agent double.
C'est ce qu'on appelle vulgairement un agent double, mais il n'est pas double parce que sa légitimité et sa probité, il la doit toujours à celui qui l'a employé en premier.
Alors aujourd'hui, on imagine que ce sont les compétences aussi en cybermenace, en terrorisme, qui permettent de faire cette sélection, notamment des agents de renseignement.
Oui, et puis là, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'espions et autres, parce qu'il suffit de les mettre derrière un écran d'ordinateur. Et puis, donc on prend des gens qui sont capables de faire des miracles avec un clavier.
Alors l'histoire du renseignement, c'est aussi cette science donc qui est mise à profit pour cette activité, les méthodes, les usages des progrès scientifiques, et ça vous le racontez aussi dans vos livres, Gérald Darbois, c'est-à-dire que au tout début, notamment les ballons, les techniques de l'aviation, l'aérospatiale, et puis les satellites, les radars, les drones, enfin voilà, tous les progrès scientifiques vont bien évidemment alimenter aussi cette histoire du renseignement.
Disons que la première technique que les services, enfin que les agents de renseignement vont utiliser, c'est l'écriture invisible. La deuxième va être les codes. Donc là, on commence déjà à entrer dans des démarches qui ne sont plus strictement liées au recueil de l'information. On va essayer de camoufler l'information, on va essayer de protéger l'information pour la faire remonter le plus loin possible. Ensuite, on va avoir un mur contre lequel tout officier de renseignement va se heurter, c'est qu'à un moment donné, on peut peut-être plus avoir une information ou un informateur. Il va falloir utiliser des techniques plus technologiques. La première technologie qu'on va utiliser, c'est l'appareil photo. Au moment de l'affaire Dreyfus, on avait installé un appareil photo en face de l'ambassade d'Allemagne, pour prendre en photo tous ceux qui entraient dans l'ambassade d'Allemagne. Mais on était au début de cette technologie, on était au début de cette technique appliquée au renseignement. Donc, il y a eu des cafouillages dans l'utilisation.
Alors qu'aujourd'hui, on va utiliser les satellites, les drones, et en même temps, ce que vous
satellites, on les utilise depuis la guerre froide.
Oui.
Et on les utilise depuis la guerre froide parce qu'on ne pouvait pas envoyer d'agents sur le terrain du côté soviétique, parce qu'il se faisait repérer immédiatement et il partait direction le goulag. Donc, il fallait envoyer un moyen sauf. Et le moyen sauf, c'était d'abord des avions. Puis les avions, comme ils se faisaient tirer dessus par la DCA, on a envoyé des satellites. Eux, au moins, ils ne se font pas descendre par la DCA.
Alors en même temps, finalement, l'image, elle est pas si utile que ça, dans le sens où elle dit ce qui vient de se passer, elle ne permet pas d'anticiper.
Ah si, elle permet d'anticiper, parce que quand vous voyez une colonne de chars qui se dirige dans une direction, même si elle est loin de l'endroit où il doit aller, on peut en déduire la marche. Si vous aviez trouvé dans vos archives le comte de Marange qui expliquait comment il avait trouvé que les soviétiques allaient envahir l'Afghanistan en 1979, vous l'auriez su.
Alors, vous parlez aussi des écoutes et des fiches. Finalement, on se dit, c'est peut-être un petit peu ancien ou à l'ancienne. Alors, on apprend dans vos livres qu'en 1968, par exemple, la police parisienne reconnaissait donc disposer de près de 400 fiches de fichiers manuels contenant plus de 130 millions de fiches individuelles. Juste pour la police parisienne, 130 millions de fiches individuelles.
Ben oui, mais...
Et aujourd'hui, on marche toujours avec ça ?
Non, parce que maintenant, les fichiers ont été informatisés. Oui, les fichiers doivent être déclarés à la CNIL. Mais ces fichiers continuent à exister. De toute manière, la base du métier de renseignement, c'est de prendre des notes. Les notes, on les met sur des fiches. Les fiches, on les met dans des boîtes. Et puis, quand on commence à avoir beaucoup de fiches, on les classe et on a un fichier. C'est le travail le plus classique. Maintenant, avec l'informatique, vous pouvez faire des fichiers, même sans vous apercevoir que vous en faites, simplement avec une base de données et en exploitant bien la base de données. Vous avez un fichier, et si la CNIL vient, le service peut être pris en faute.
En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plus vite, d'avoir plus de données, mais encore faut-il être en mesure de les interpréter en un temps record, parce que l'humain reste quand même la clé de voûte de ces services de renseignement.
Il y a deux types de services de renseignement, service de renseignement extérieur et le service de renseignement intérieur. La finalité du service de renseignement extérieur, c'est d'apporter une information au décideur ultime, donc le président de la République, pour qu'il puisse baser sa politique. Quand on leur dit qu'il faut continuer à parler avec Hafez el-Assad et que le politique dit on va éliminer Hafez el-Assad, c'est une décision politique. Ça n'est pas Bachar el-Assad, pas Hafez. Mm. C'est une décision politique. Ça n'est pas la faute des services de renseignement si on fait une erreur. Les services de renseignement intérieurs, eux, ont une double finalité. Une finalité d'information et une finalité d'arrestation. Donc, eux sont dans des temps qui sont beaucoup plus courts. Là où le service de renseignement extérieur peut peaufiner un dossier et établir un historique d'une procédure ou d'un État ou d'une information, les services de renseignement intérieur, eux, vont être obligés d'aller beaucoup plus vite, ne vont pas forcément avoir tout le temps la possibilité de bien croiser toutes les informations. Et c'est là que se niche le petit problème, le petit caillou qui va devenir une grosse montagne quand on est face à un danger protéiforme comme le terrorisme.
On va y revenir dans un instant. La question, c'est vrai, en vous entendant Gérald Arbois, qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'au fil de l'histoire, comme ça, les services de renseignement ont travaillé main dans la main avec des inventeurs, des centres de recherche, des scientifiques, aujourd'hui des start-up, on imagine, mais pour aller toujours plus loin?
Pendant la guerre froide, il était nécessaire de recourir à des universitaires, à des chercheurs, pour établir, justement, on était au début de l'informatisation pour établir des logiciels qui permettent de transformer des sons en texte, des algorithmes qui permettent... Mais les Français l'ont fait avec les petits moyens qu'ils avaient. Mmh. Les Américains l'ont fait avec les énormes moyens qu'ils avaient. Et une bonne partie de l'Internet, celle qu'on ne doit pas aux militaires américains, ben on le doit à la CIA ou à la NSA.
Alors, vous parlez des Américains. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est de se rendre compte que les États-Unis ont été la dernière grande nation à se doter de services secrets. Alors, FBI créé en 1908, la CIA seulement en 1947.
Mais parce que les États-Unis sont un continent et que faire la guerre aux Indiens, faire la guerre aux Mexicains, faire la guerre aux Anglais qui étaient au Canada, on pouvait le faire uniquement avec des moyens traditionnels de reconnaissance militaire ou autre. Mais on est à une période aussi où ils faisaient leur guerre, où nous, en Europe, on avait également le même principe, c'est-à-dire des services de renseignement qu'on créait pour la guerre. Et puis une fois que la guerre était finie, tout le monde rentrait à la maison et on oubliait le service de renseignement parce qu'on n'avait pas permanentisé la chose. Donc les Américains n'ont pas eu de guerre ou d'ennemis avant les Soviétiques, qui nécessitent d'avoir un service de renseignement.
Et donc finalement, c'est la guerre froide qui transforme la donne. Alors je vous propose d'écouter à nouveau, petite plongée dans les archives sonores de l'INA. Paris vous parle, c'était le 7 mai 1960, et c'est l'histoire d'un avion espion, justement.
Allô Moscou, vous m'entendez?
Allô, oui.
Allô Serge Berg?
Ici Serge Berg, correspondant à l'agence France Presse.
Oui.
Une atmosphère de véritable suspense a régné aujourd'hui au Soviet suprême de l'URSS. Lorsque M. Khrushchev, nouvelle révélation sur l'avion américain qui a violé l'espace aérien soviétique le 1er mai dernier et fut abattu par une fusée soviétique. On s'attendait bien à Moscou à ce que le chef du gouvernement de l'URSS fournisse aujourd'hui de nouvelles précisions sur cette affaire. Qu'a dit M. Khrushchev, dont le discours d'une heure a été pour ainsi dire en majeure partie consacré à l'avion américain. Que cet avion faisait délibérément de l'espionnage au-dessus du territoire soviétique et que la thèse du département d'État américain selon laquelle il s'agissait d'un avion météorologique qui avait perdu sa route était plus que ridicule. Et le chef du gouvernement soviétique n'a pas manqué alors, comme l'aurait fait le meilleur des procureurs, à citer des faits de plus en plus probants et montrer des pièces à conviction pour confondre ceux qui sont responsables de cet acte. L'avion américain a été abattu au-dessus de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, à plus de 2000 km de la frontière méridionale de l'URSS.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alors, une réaction, Gérald Darbois, un avion météorologique ou un avion espion?
C'est l'affaire Gary Powers. Mais justement, tout à l'heure, je vous disais qu'à un moment donné, on est passé au satellite. L'affaire Gary Powers, justement, est le moment où les Américains arrêtent d'envoyer des avions espions au-dessus de l'Union soviétique et décident d'utiliser les satellites qui sont à une orbite beaucoup plus haute que là où pouvaient passer les avions U-2. Et on change la donne parce que là, on est dans ce que Eisenhower avait appelé le ciel ouvert. Le ciel, il est ouvert parce qu'il n'y a plus d'avions espions qui viennent chatouiller les défenses des différents pays. Mais surtout, on a mis une couverture satellite qui permet de voir partout.
Alors, on peut se poser aussi la question de l'identité du journaliste qui s'appelle Serge Berg. En même temps, on entend que c'est un soviétique. Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre livre que les journalistes, d'ailleurs, ont été pour beaucoup des agents de renseignement dans l'histoire.
Hein. Le journalisme et le renseignement, c'est le même métier. Hein. On traite de l'information, sauf que d'un côté, le journalisme, on le traite pour beaucoup. Alors que dans le renseignement, on le traite pour un seul.
Alors après la guerre froide, qui marque vraiment un temps, la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, on n'aura pas le temps de s'attarder, mais qui redonne aussi une image positive. Là pour le coup, on parlait de l'image négative ou de l'espionnage, etc. Mais bon, la Seconde Guerre mondiale a marqué un temps plutôt positif par rapport à ça. Mais donc après la guerre froide, on aurait pu croire à un déclin des services de renseignement. Et puis finalement, il y a les guerres civiles en Europe centrale et orientale, compétition économique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du terrorisme économique, mais là, il y a énormément de choses aussi à dire. Et puis, le terrorisme, et d'où une transformation des services. Et finalement, on en arrive à ce fameux 11 septembre 2001. Est-ce que, Gérald Darbois, on peut parler d'un échec du renseignement à partir de là?
On ne parle pas d'échec du renseignement, on ne parle pas plus de faille du renseignement. On parle d'une surprise stratégique. C'est-à-dire qu'on avait tout prévu. On avait prévu les capteurs technologiques qui pouvaient permettre d'identifier dès que quelqu'un bougeait une oreille. On avait oublié que le renseignement, c'était à la base du renseignement humain et qu'il valait mieux savoir ce qui se passe sur son territoire, envoyer des gens pour vérifier les informations à l'étranger pour pouvoir confirmer ce que les capteurs disaient et pas faire une confiance totale aux capteurs. Et le 11 septembre... Et exactement ce type de surprise stratégique. En 2 heures après que les deux avions ont tapé les tours jumelles de New York, toute la structure logistique de ceux qui étaient morts dans les avions était arrêtée par le FBI. Donc c'est que le FBI avait les pièces, mais il ne savait pas comment monter son puzzle. À partir du moment où l'attentat était arrivé, le puzzle se monter tout seul, et on comprenait comment les choses avaient évolué. Après, on a eu d'autres choses. Mais tout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie n'est qu'un outil pour le renseignement. Mais ça ne dispense pas de faire du renseignement. Et faire du renseignement, ça veut dire utiliser des hommes et continuer à faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire manipuler des sources.
Et en même temps, ça pose la question aussi de la communauté du renseignement. Parce qu'aux États-Unis, donc, il y a la CIA, le FBI, NSA, le département d'État, l'administration de l'aviation, le renseignement militaire. Ça pose cette question aussi de la communication des éléments.
Ça, c'est le plus gros problème. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France, c'est la même chose. On est sur des services qui ont une histoire, qui ont une identité, qui veulent être les premiers à avoir la médaille. Et donc, on a toujours une course à l'échalote qui va faire qu'on va dire cette information-là, on se la garde, comme ça on pourra creuser et puis gratter les autres, alors que les autres, ils auraient peut-être besoin justement de cette information-là pour créer, constituer leur puzzle et rendre l'image claire.
Alors finalement, on va voir que ça a toujours été dans l'histoire et que ça a bien sûr suscité aussi une évolution dans les fonctions, dans l'organigramme de ces services de renseignement et notamment en France. On va y revenir juste après votre choix musical, Gérald Darbois, qui est une belle découverte en tout cas, si vous voulez nous l'annoncer. C'est donc l'interprète Teith Barrows.
Teith Barrows et The Whispers. C'est une petite Belge qui commence à être connue, je pense.
Eh bien, que vous allez peut-être nous faire découvrir, en tout cas pour certains auditeurs, c'est une très jolie chanson.
Bad-tempered voices rising, shouting in the dark. They say that I've lost listening to my heart. If I stay, I won't last. And I pray, oh, I pray for a spark. Thousands of fingers pointing my failures. They show my shame.
Il est 16h et presque 34 minutes, vous êtes sur France Culture, c'est le choix de notre invité Gérald Darbois que vous venez d'écouter, Teith Barrows, The Whispers. Et nous sommes en direct et donc en compagnie de Gérald Darbois qui est spécialiste de l'histoire du renseignement et de l'espionnage, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Et il est l'auteur notamment du livre « Des services secrets pour la France » paru aux éditions du CNRS et aussi de l'ouvrage « Au cœur des services secrets » édité au Cavalier Bleu. Et avec lui, eh bien, c'est une occasion de revenir sur cette histoire de la science et du renseignement, de l'espion au big data et avec la parution aussi des cahiers de Science et Vie sur l'espionnage, 4000 ans de manipulation, allez, retour dans les archives pour s'intéresser justement à ce qu'on appelle cette guerre des services. C'était Bernard Cazeneuve qui s'exprimait, on parlait de lui sur France Inter. Et c'est le journaliste Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest et auteur du livre Au cœur du pouvoir, qui parlait justement de Cazeneuve, et c'était le 26 décembre 2015.
C'est une scène incroyable.
Ouais.
Bernard Cazeneuve assiste aux images, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Reims où les policiers du RAID croient avoir localisé les frères Kouachi, et les télévisions se mêlent aux hommes du RAID pour une offensive qui finalement ne débouche sur rien. Et Bernard Cazeneuve, quand il découvre ces images, il rentre dans une colère qui est toujours froide chez lui, comme il le dit, et il convoque tous les chefs de la police parce que ça a été mal organisé. Si c'est mal organisé, ça vient d'une espèce de guerre des polices, et il les enferme dans cette pièce du fumoir, quasiment jusqu'à la fin de la séquence, c'est-à-dire jusqu'à l'assaut de l'hypercachère, en disant vous mettez d'accord, je ne veux pas de guerre des polices. Il va réussir pendant cette séquence-là à contenir les rivalités, mais les guerres et les rivalités des polices et des services de renseignement vont reprendre de plus belle ensuite. Et il faut savoir quand même qu'on a vécu cette année 2015 avec des guerres de police, des rivalités de services de renseignement qui ont parfois pu avoir des conséquences dramatiques.
Alors, guerre de police, guerre des services, Gérald Darbois, c'est un petit peu ce qui a rythmé l'actualité ces derniers temps aussi en France, qui rythme l'actualité ou dans l'histoire. En tout cas, on retrouve ces cas typiques. Une réaction ?
Mais on a des guerres, ce qu'on appelle des guerres de police ou des guerres de services, quand la législation est mal taillée, quand les tissus administratifs sont mal connectés. Pour prendre l'exemple récent, on a fait une réforme en 2008 où on a remis toute la DST et une partie des renseignements généraux dans une structure commune qu'on a appelée la direction centrale, et maintenant c'est la direction générale, plus du renseignement mais de la sécurité intérieure.
Ah oui, ça a changé en 2013
mais
d'ailleurs.
On a oublié une petite partie qui était le renseignement territorial qu'on a laissé, qui appartenait au RG initialement, mais qu'on a coupé de la DCRI. Et surtout, on leur a mis des niveaux d'habilitation qui étaient différents. Le renseignement territorial devait passer des informations à la DCRI. Et ça, il le faisait normalement. Il le faisait du temps des RG, il le continuait à le faire. Mais quand il voulait avoir un retour sur cette information à la DCRI ou à la DGSI, elle était devenue secret défense. Au renseignement territorial, ils n'étaient pas habilités secret défense. Donc, ils n'avaient pas le besoin d'en connaître. Donc, ils ne pouvaient pas y accéder. Donc, une mésentente.
Une mésentente et aussi une complexité de l'organigramme. Quand on regarde l'organigramme des services de renseignement, de services de sécurité en France, enfin, c'est...
Encore, il est simple en France.
Ah oui, moi, je le trouve assez complexe déjà.
Oui, mais vous prenez l'exemple américain, vous verrez qu'il est un petit peu plus...
Alors, que pèsent ces renseignements en matière de décision politique au fil de l'histoire ?
Ça, c'est le problème. Parce qu'on n'est jamais au moment où l'homme politique va prendre sa décision. On ne sait pas qui il va écouter, s'il va écouter son service de renseignement, s'il va écouter son conseiller privilégié, s'il va écouter son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense, sa petite amie, l'opinion publique, les journalistes, le dernier qui a parlé. Ça, c'est difficile à... On le voit, en fait, quand on confronte l'information venant du service de renseignement à la décision politique qui a été prise. Et on voit qu'il y a toujours eu, à un moment donné, quelqu'un qui a considéré que l'information des services n'était pas vérifiable ou vérifiée ou juste. Selon quels critères, on ne le sait pas. Et on a pris une autre décision. Pour prendre un exemple vraiment dans l'histoire, au lendemain de l'occupation de la Rhénanie par Hitler... Donc on est au printemps 1936, les services de renseignement français donnent un état de l'armée allemande, un ordre de bataille. Et quand le général Gamelin, qui était le chef d'état-major, reçoit l'ordre de bataille allemand, il trouve qu'il ne fait pas vrai. Pourquoi il ne fait pas vrai ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes, il n'y a pas suffisamment de matériel, donc il va maquiller les chiffres. Et il va maquiller les chiffres parce qu'il estime que l'armée française n'est pas prête à une guerre contre l'Allemagne. Sauf que, vu les chiffres de l'armée, l'armée allemande
en 1936,
l'armée française et l'armée britannique auraient très bien pu renvoyer, et les Belges, auriez bien pu renvoyer Hitler de l'autre côté du Rhin.
Ce qui n'était plus le cas en 1939.
Et on n'aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale.
Et effectivement, ces services ont pu être à la source de fausses informations et être politisés ou instrumentalisés au bénéfice de la politique. Comme vous le dites, on pense aussi au cas de la guerre en Irak. Saddam Hussein et George W. Bush, c'était typiquement ça.
C'est rare et c'est surtout les Américains qui ont souvent été trahis par leur tendance néoconservatrice et les volontés de se venger d'une chose ou d'une autre. On l'a eu en 1978 quand ils ont fait une revue, les néoconservateurs, de toutes les informations sur l'Union soviétique qu'avait ramené la CIA. Et ils sont arrivés à des résultats tout à fait différents qui ont créé ce qu'on a appelé le missile gap, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont été effarés de voir que les Russes avaient plus de missiles que les Américains. Donc ça a lancé la machine militaro-industrielle. Les Américains avaient le cash suffisant pour pouvoir suivre. Ça a poussé les Russes à essayer de faire la même chose, mais comme ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour le faire, ça a précipité la fin de la guerre froide. Donc on pourrait dire qu'ils ont réussi, mais il ne faut pas oublier qu'en 1983, on était sur le fil pour avoir la Troisième Guerre mondiale.
Alors, est-ce que, selon vous, Gérald Darbois, au regard de l'histoire, justement, et de ce qui se passe aujourd'hui, l'émission intitulée aujourd'hui, c'est « De l'espion au Big Data », est-ce que vous pensez que nous allons vers le tout électronique, que le Big Data, que la cyberdéfense, c'est vraiment cet avenir du renseignement ?
Ce n'est pas l'avenir du renseignement. On est toujours dans quelque chose qui va aider les services de renseignement. Mais il est clair que dans une période où on fait attention au budget, où on estime qu'il ne faut pas exposer inutilement ses personnels, parce qu'il y a des questions d'assurance, parce qu'il y a des questions d'opinion publique qu'il faut flatter, on va préférer envoyer un capteur technique, donc utiliser ce fameux Big Data, plutôt que d'envoyer un agent. Mais l'avenir du renseignement est et reste comme il l'a été de par l'histoire, c'est-à-dire le renseignement humain. C'est ça la base.
Le travail de l'homme à la base.
Oui.
Avec ses astuces, ses méthodes.
Et son intelligence.
Et alors, un service de renseignement européen ou international. Finalement, quand on regarde l'histoire, là aussi, on se rend compte, alors on n'a pas attendu les années 80, en 1848, la police prussienne avait pris l'initiative, vous le racontez dans vos livres, de constituer un réseau d'échange d'informations avec les polices d'Autriche, de Saxe, de Bade, d'Hanovre, de Bavière et du Württemberg. En 1956, c'est Interpol. Après, donc, 99, on parle d'Europol. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, face à cette menace terroriste, il serait plus que nécessaire de disposer d'un service de renseignement, au moins européen, sinon international.
Pour avoir un service de renseignement européen qui arrivera à la fin, il faut d'abord commencer par avoir un pouvoir fédéral européen, donc un État européen, un gouvernement européen. On a un Parlement européen, mais on n'a pas de gouvernement. Des citoyens qui se pensent comme européens, pas qui se pensent comme anglais, écossais, irlandais, français, alsaciens, bretons, basques. On n'est pas dans une logique européenne quand on pense comme ça.
Donc c'est ça, les obstacles à une efficacité totale, vous dites finalement c'est l'institution qui manque, même si aujourd'hui, face à cette menace terroriste, il faut peut-être précipiter un peu les choses.
Mais les services ont toujours anticiper la menace terroriste. Au lendemain des attentats de Munich en 72, on a créé des structures pour échanger des informations au niveau des services européens. Ces structures-là existent, mais après, encore une fois, il faut que les informations échangées et les analyses faites par les services de renseignement soient entendues par les politiques. Si les politiques ne les entendent pas, on aura toujours des surprises stratégiques.
Et puis des surprises, parfois il y en a bien d'autres aussi dans l'actualité. Allez, je vous emmène le 18 janvier 2014. Une autre histoire justement, inversement, les services secrets qui ont pu déclencher des scandales. Barack Obama s'exprimait ce jour-là et c'était suite à cette affaire d'écoute.
Tout le monde, quelle que soit sa nationalité, doit bien savoir que les États-Unis n'espionnent pas les gens ordinaires qui ne menacent pas notre sécurité et que nous prenons en compte le respect de leur vie privée et c'est vrai aussi pour les dirigeants étrangers. Compte tenu de la sensibilité de ce sujet, j'ai clairement demandé aux agences de renseignement que, sauf si la sécurité nationale est en question, nous n'enregistrerons pas les communications de chefs d'État et de gouvernement de nos proches alliés. Je veux être clair. Nos services vont continuer à obtenir des informations sur les intentions des gouvernements dans le monde entier, comme tous les autres pays le font. Il n'est pas question de s'excuser simplement parce que nous sommes plus efficaces que les autres. Mais les dirigeants, avec lesquels nous travaillons étroitement et dont la coopération nous est précieuse, peuvent nous faire confiance. Nous les traitons comme de vrais partenaires.
Et la traduction était assurée par notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone. Alors, tout le monde écoute tout le monde ?
On a les moyens d'écouter tout le monde. Après, est-ce qu'on entend tout le monde ? Ça, c'est un autre problème. Ce que Snowden a dévoilé, c'est les moyens techniques d'écouter. Ce que Snowden n'a pas dévoilé, c'est les moyens d'analyse de ce qu'on ramène. C'est comme si vous allez à la pêche avec un filet aux mailles très fines, vous allez récupérer tout ce qu'il y a dans l'eau. Mais après, il faut le trier. C'est pour ça qu'on a inventé des filets avec des mailles différentes selon le poisson qu'on veut ramener. Et bien, au niveau de l'information et au niveau du renseignement, c'est la même chose. Il faut calibrer ses écoutes, il faut calibrer ses moyens techniques de ramener de l'information.
Alors Gérald Darbois, on arrive au terme de cette première partie d'émission avec vous. Dernière question, vous êtes historien de cette donc histoire du renseignement. Vous n'êtes pas si nombreux qu'à ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travaux à l'université sur ce terrain, mais ailleurs. Donc l'intérêt d'ailleurs des Américains est très franc là-dessus. Je crois que les Anglais ont aussi des départements qu'ils ont montés depuis les années 80. France, Allemagne, Belgique. Mais à l'université, l'histoire du renseignement, il n'y a pas forcément encore aujourd'hui de cours ou de secteurs spécifiques.
Des cours, il y en a, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'enseignants-chercheurs sur ce créneau-là, parce qu'en même temps, on a laissé tomber l'histoire des relations internationales, on a changé les paradigmes quand on fait de l'histoire internationale. Donc forcément, la question du renseignement n'est pas prise en compte. Et puis, il y a peut-être encore toujours cette méfiance atavique envers ceux qui font de l'histoire du renseignement. Soit ce sont des doudingues, soit ce sont des espions, soit...
Et pourtant, les archives, vous y avez accès, et même celles qui demandent des dérogations, voilà, en tant qu'historien, vous accédez quand même à des documents formidables et qui nous révèlent bien des choses.
C'est l'historien qui donne tout son sens à l'archive. Et donc, il faut d'abord connaître le renseignement, voir comment les services de renseignement travaillent, pour pouvoir voir à travers les archives et découvrir des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais qu'on peut déduire parce que, justement, on connaît ce monde.
Merci à vous, Gérald Darbois. Je rappelle les titres de deux de vos livres, Des services secrets pour la France, paru aux éditions du CNRS, et puis l'ouvrage Au cœur des services secrets, édité au Cavalier Bleu. Et puis je renvoie aussi nos auditeurs sur l'interview que l'on trouve de vous dans les derniers cahiers de Science et Vie, l'espionnage 4000 ans de manipulation. Et puis restez avec nous, ça va vous intéresser justement la suite non sans lien avec l'espionnage.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire avec un colloque à venir. Et là, vous les entendez, ça y est, Sébastien Balibar et Gérald Darbois sont déjà en communication. J'avais dit c'était non sans lien avec l'espionnage. Le 24 mai prochain à 9h30 dans la grande salle des séances de l'Institut de France, 100 ans de révolution quantique, un colloque que l'on vous propose, le tout dans une année, je le rappelle, une année anniversaire pour l'Académie des sciences avec les 350 ans de l'Académie et donc de nombreux beaux événements à suivre cette année. Bonjour Sébastien Balibar.
Bonjour Aurélie Luneau.
Alors vous êtes chercheur, je le rappelle, au département de physique de l'École Normale Supérieure de Paris, membre et délégué de la section de physique de l'Académie des Sciences. Votre dernier livre s'intitule « Climat, y voir clair pour agir » paru chez...
Le Pommier.
Le Pommier. Et puis donc il y a ces révolutions quantiques qui sont au cœur de nos vies.
Après 500 mètres, prenez la sortie en direction de Porte de Clichy, puis tournez à gauche.
Alors... Voilà, bip, 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 le GPS, parce que effectivement, GPS, localisation, ordinateur, téléphone portable, laser dédié à la chirurgie des yeux, la lecture des disques CD, les DVD, les mémoires magnétiques ou optiques, l'imagerie médicale, les télécommunications par fibre optique, on peut rallonger cette liste, Sébastien Balibar, les révolutions quantiques sont au cœur de nos vies.
Je crois que la physique quantique, effectivement, en un siècle, a révolutionné non seulement notre vie courante par le biais de toutes les applications extraordinaires que vous venez de citer. Mmh. D'ailleurs, il manque là-dedans la cryptographie quantique qui ferait le lien avec l'émission, le début de l'émission.
C'est pour ça que j'avais bien discuté en discussion.
Mais je crois que la physique quantique a aussi révolutionné même notre façon de penser certaines choses. Le fait qu'un objet puisse être à plusieurs endroits à la fois, c'est quand même quelque chose qu'on vérifie et qui choque l'entendement commun. Le fait que l'objectivité n'existe pas totalement. Quand on mesure quelque chose, nécessairement, dans certaines circonstances, on le modifie. Vous voyez, donc il y a aussi des révolutions conceptuelles à la clé de ces 100 ans extraordinaires de développement de la physique quantique.
Oui. Exactement. Alors, des progrès venus du hasard, faut le rappeler, des histoires arrivées souvent de façon inattendue.
Le hasard, disons, la curiosité systématique, je dirais ça comme ça. Mais effectivement, toutes ces applications que je crois extraordinaires, auxquelles on est tellement habitué qu'on trouve ça naturel d'ailleurs, elles n'ont pas été trouvées en les cherchant. On dit souvent ça, on n'a pas trouvé le laser en améliorant les lampes à huile, ni les transistors en améliorant les lampes triodes. Mais en étant très curieux de la manière dont la lumière interagit avec la matière, des choses comme ça, qu'est-ce que c'est qu'un métal, qu'est-ce que c'est qu'un électron, pourquoi ça bouge, dans quelles circonstances, etc. D'un seul coup, il émerge une idée extraordinaire qui se développe et qui a ses applications, vous voyez. Mais il faut avoir la curiosité comme passion permanente pour faire des découvertes. Simplement, c'est quasiment impossible de prévoir longtemps à l'avance quelles sont les découvertes qui vont révolutionner notre vie dans 10 ans.
Alors par contre, ce colloque, vous l'avez prévu longtemps à l'avance peut-être? Vous l'avez monté, organisé, co-organisé avec Serge Haroche?
Oui, on a travaillé avec Serge à la préparation de ce colloque qu'on voulait abondant mais pas trop dense. Mm-hmm. Donc c'est une journée entière avec 8 exposés sur différents aspects. Il en manque d'ailleurs. Par exemple, on a laissé de côté provisoirement le problème de la nature des particules élémentaires. D'accord. Donc le boson de Higgs dont on a parlé récemment, on en parlera une autre fois. Et on va parler surtout de lumière, de matière, de physique microscopique, les atomes. Comment ils émettent et absorbent de la lumière, etc. Mais aussi de phénomènes macroscopiques comme un litre d'hélium liquide, un kilo de plomb qui devient supraconducteur, des kilomètres de fil pour faire des électroimants extraordinaires comme au CERN et bien ailleurs, etc.
Alors déroulons un petit peu plus précisément, justement pour donner aussi envie à nos auditeurs peut-être de le suivre. Donc tout d'abord, intervention de Serge Haroche. Alors comment la physique quantique est née d'interrogations fondamentales sur la lumière, le colloque va démarrer par ça.
Oui, Serge Haroche, en tant qu'organisateur et puis en tant que personnalité remarquable, bien sûr, fait l'introduction de ce colloque. Mmh. Donc, il remonte un peu à l'histoire de l'avènement de la physique quantique, qui effectivement démarre avec les travaux d'Einstein, développés ensuite par beaucoup d'autres gens, Schrödinger, Dirac, plein d'autres, qui ont compris que la lumière, c'était à la fois une onde et une particule. Et ça, ça commence déjà à être un peu contre le sens commun habituel. Mmh. Mais c'est comme ça que ça commence. Alors après, on a compris aussi que comment les atomes absorbaient et réémettaient de la lumière. Donc toute l'interaction entre la matière et le rayonnement. Et pour sauter directement à Serge lui-même, qui est quand même un très très grand monsieur, il a eu le prix Nobel il y a donc 3 ans, oui. Si je ne me trompe, pour quelque chose de très important que je peux essayer de résumer en 3 phrases. Un objet macroscopique, mettons une balle de tennis, si je la lance contre ces 2 fenêtres, elle va passer soit à droite, soit à gauche, mais pas les 2 à la fois quand même. Bon. Mais en revanche, c'est une particule. Bon. Si je lance un électron, lui, il est capable de passer à la fois à droite et à gauche. Parce que c'est aussi une onde, et que comme une onde, comme quand je parle, ma parole, qui est une onde sonore, oui. Elle passe à la fois à droite et à gauche. Alors de même, on peut imaginer que, vous savez, le magnétisme, ça provient du fait que les particules tournent sur elles-mêmes. Donc un électron peut tourner comme une toupie à droite ou à gauche. Mais il peut tourner dans une superposition de droite et de gauche. Alors ça, c'est étrange. Bon. Et donc, on a du mal à comprendre qu'un objet macroscopique, par exemple le fameux chat de M. Schrödinger, oui. Puisse être à la fois mort et vivant. Donc il y a quelque part une frontière entre le microscopique, les atomes, particules, etc., qui peuvent être quantiques, donc bizarres, et puis le monde macroscopique que nous connaissons, qui lui n'est pas bizarre. Les chats peuvent pas être à la fois morts et vivants.
Oui, parce que tout à l'heure, vous nous disiez aussi, il y a des objets qui peuvent être et là et ailleurs.
Oui.
Oui, et là, il y a une intervention spécifique, je crois,
oui,
sur ce
oui,
thème-là.
Oui, aussi, hein. Bien sûr, oui, oui. Et là, ça a un lien avec la cryptographie quantique. Mais juste voilà. Pour terminer ce que j'essayais de dire, Serge Haroche a compris ce qui fait que quand un système grossit en nombre de particules, progressivement, il devient macroscopique et il cesse d'être quantique. Très difficile question, mais qui lui a valu le prix Nobel, et bien sûr, il va nous parler de ça.
Bon, et c'est le début du colloque. Et ensuite, oui. Avec d'autres interventions, d'ailleurs des interventions de chercheurs français et étrangers.
Oui.
Et justement, sur cette question de non-localité de Newton à la téléportation quantique, là, c'est Nicolas Gizin de l'Université de Genève qui va intervenir.
Eh bien, alors, disons un mot de la cryptographie quantique.
On y va.
Effectivement, le fait qu'on puisse fabriquer des systèmes, c'est des paires de particules, par exemple des paires de photons qui sont intriqués, c'est-à-dire qu'ils sont liés l'un à l'autre, bien qu'ils soient très loin l'un de l'autre. Ça permet de construire un système de transportation d'informations qui détecte s'il y a un espion. Donc on peut savoir si quelqu'un espionne, et donc si on peut se transmettre de l'information sans risque ou pas. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Ça fonctionne. Il y a déjà des prototypes qui, sur des centaines de kilomètres, permettent de transmettre de l'information en étant sûr qu'on n'est pas espionné. C'est quand même extraordinaire.
Ah ben là, je vois Gérald Darbois, il se penche sur vos notes et vers vos documents.
Alors, je ne suis pas
un spécialiste
de ça, mais c'est le principe.
Il vous espionne, là, pour le coup. Hein. Donc ça, ce sera l'intervention de, je retrouve son nom, Nicolas Gizin.
Nicolas Gizin, oui.
Et alors, parmi donc tous ces intervenants, parce qu'on ne va pas pouvoir passer en revue, bien sûr, tous les thèmes que l'on va retrouver, mais il y en a peut-être certains qui méritent d'être... Ben, dites-moi, je sais que Anne Lullier, vous tenez beaucoup à son intervention, hein, une des rares femmes.
Hein. Anne Lullier, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Elle est française, comme son nom l'indique, mais en fait, elle, après une thèse à Orsay, elle est partie à l'université de Lund, en Suède, qui l'a élu membre de l'Académie royale de Stockholm, qui l'a embauché dans le comité Nobel que nous savons, et dont elle est aujourd'hui présidente. Bon. Et donc, c'est une femme dont l'importance au niveau international de la science est colossale. Par ailleurs, c'est évidemment une chercheuse extrêmement brillante. Elle s'intéresse à des impulsions de lumière fabuleusement courtes, qui durent un milliardième de milliardième de seconde. Et ça, c'est l'échelle de temps que prennent deux atomes pour former une molécule. Donc, ce genre de technique d'optique quantique extrêmement poussée permettent de comprendre la dynamique de la chimie. Rien moins. Donc, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire qui va nous parler de ça.
Et bien voilà.
Grand plaisir.
Et à venir découvrir, donc, le rendez-vous, c'est le 24 mai prochain. Sébastien Balibar, 9h30. Donc, une séance publique. Mais alors, déjà, je crois qu'il y a déjà des listes d'attente, hein. Mais sauf qu'on peut s'inscrire parce qu'il y aura certainement un salon prévu aussi à côté pour assister en projection vidéo à ce qui va se dérouler et se dire dans ce colloque. Et dont je rappelle le titre, 100 ans de révolution quantique. Et donc, bien évidemment, j'invite tous nos auditeurs à se renseigner. Informations et liens aussi à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Puis, vous pouvez aussi réécouter l'émission, ou mieux la télécharger, et puis nous suivre sur Twitter et sur Facebook. C'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de votre fidélité. Et puis merci aux nouveaux auditeurs également, bien évidemment. Émission préparée avec la complicité de Catherine Donnet et d'Anaï Morales pour les archives de l'INA. Sans oublier aujourd'hui Caroline Chausset de la documentation sonore de Radio France, Corinne Chauvel et Christine Anzano de la documentation d'actualité. À la réalisation, de retour pour notre plus grand plaisir, Alexandra Malka, à la technique Edouard Rubinstein. Et puis, la semaine prochaine, à l'occasion du Festival de Cannes, semaine spéciale Science et Cinéma dans la tranche Science de France Culture, avec au programme de la Marche des Sciences, Microcosmos, le peuple de l'herbe, 20 ans déjà, et oui, 20 ans déjà pour ce film qui a été honoré de 5 Césars en son temps. Un événement à revivre avec les deux réalisateurs biologistes de formation qui seront avec nous, Claude Nuritzani et Marie Perrenou. Et puis demain, autre rendez-vous Culture Science à 16h. Michel Alberganti, Sciences Publiques, et cette question : à quoi servent les controverses scientifiques ?